France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une heure en direct et en studio. Entendez-vous l'écho? C'est pour commencer une question d'actualité. Aujourd'hui, l'entreprise française Carmat, qui fabrique des cœurs artificiels, est en cessation de paiement depuis la fin du mois de juin. Aujourd'hui, le tribunal des affaires économiques de Versailles doit rendre sa décision sur la nouvelle offre de reprise. Retour donc sur la chute de ce qui était considéré comme un fleuron français et l'exemple de la réussite du modèle économique des start-up avec cette question. Financer le risque est-il un choix du cœur? Et puis, nous poursuivons notre série consacrée à la fabrique de l'expertise économique. On se penche aujourd'hui sur les professionnels de l'incertitude, c'est-à-dire ces experts dont le métier est de prévoir, voire prédire le futur économique et qui forcément font des erreurs. Tout l'enjeu est alors de ne pas perdre en crédibilité. Le sociologue Olivier Pilmis a observé ces prévisionnistes en action et nous raconte tout cela. Et enfin, à 14h55, vous retrouverez Arnaud Aurin qui tire, comme tous les lundis, le fil de l'écho avec aujourd'hui cette vaste question: assiste-t-on à la fin de la mondialisation ? Mais avant cela, une parenthèse pour revenir sur ce qui s'est passé dans l'actualité économique la semaine dernière. Une parenthèse qui n'est forcément pas très exhaustive. Un point pour commencer sur les discussions budgétaires, forcément. Jeudi dernier, le Sénat s'est penché sur le projet de budget de l'État pour 2026, examen qui devrait se poursuivre jusqu'au 15 décembre prochain. Côté PLFSS, s'ouvre aujourd'hui une semaine de tous les défis et l'agenda des ministres est bien rempli, alors que le calendrier se resserre, car pour rappel, la date butoir pour adopter définitivement le PLF est fixé au 23 décembre à minuit. En parallèle, cependant, certains dossiers avancent. On apprenait hier que Sébastien Lecornu entend mener une réforme structurelle de la communication de l'État, soit une réduction de 300 millions d'euros par rapport aux milliards dépensés en 2024. Réforme qui devrait être formalisée d'ici le premier trimestre 2026 par la mission État efficace qui, pour celles et ceux qui seraient passés à côté, a été créée en septembre dernier. D'État efficace, il est aussi question au Japon, où a été lancé mardi dernier un doge à la japonaise, selon les mots de l'AFP. Le parallèle avec la Commission américaine pour l'efficacité gouvernementale est là. En effet, une trentaine de fonctionnaires ont été chargés par Satsuki Takayama, ministre japonaise des Finances, de former un bureau pour l'examen des mesures fiscales spéciales et des subventions afin de se débarrasser de dépenses perçues comme inutiles. La semaine a également été marquée par la publication, samedi 29 novembre, il y a deux jours donc, d'une tribune dans le journal Le Monde, signée de plusieurs économistes, parmi lesquels on retrouve Patrick Artus, Olivier Blanchard, Gilles Berset, Camille Landais, Thomas Philippon, Jean Pisani-Ferry ou encore Alexandra Roulet. Tous ont pris la plume pour défendre le magazine Challenge, dont la ligne éditoriale est en passe de subir de lourdes modifications, selon la volonté de Bernard Arnault. Ce dernier, je le rappelle, est devenu, depuis le 25 septembre dernier, propriétaire du magazine et souhaite que la ligne éditoriale évolue d'une adhésion à l'économie sociale de marché à l'économie libérale de marché, et les signataires de la tribune de rappeler que l'économie sociale de marché est un principe inscrit à l'article 3 du traité sur l'Union européenne et devrait à ce titre être défendu. Voilà, qui nous donne des idées de sujets ici à Entendez-vous l'écho, où on aime bien, vous vous en êtes rendu compte, revenir sur l'histoire des grandes notions pour comprendre ce qu'elles deviennent aujourd'hui. Et ce n'est pas tout à fait à Canary Bay, mais à Canary Wharf que se clôture ce tour d'horizon de l'actu de la semaine, comme on a appris ce vendredi que MTV Music, MTV Hits et ses émissions de musique des années 80 et 90 fermeront au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens dans les mois à venir. Un petit hommage aux années 80 était de mise. Canary Wharf, donc, district financier londonien, pas la City, mais l'autre, aurait-on envie de dire, où JP Morgan a pour ambition de construire une tour géante, soit 280 000 mètres carrés, pour accueillir 12 000 employés, c'est ce qu'on a appris jeudi dernier. Alors je vous parlais déjà des velléités immobilières et architecturales de JP Morgan il y a quelques semaines lorsque la banque a inauguré le 21 octobre dernier son siège à New York. Dans le cas londonien, il s'agit carrément de redonner vie à un quartier que Le Monde décrivait il y a un an encore comme à la dérive. Alors moi, la raison pour laquelle je trouve que ces histoires de tours et de records de hauteur sont toujours un peu fascinantes, c'est parce qu'elles symbolisent systématiquement des enjeux économiques et politiques très forts. En l'occurrence, cette tour géante à Canary Wharf est un triple symbole, car si JP Morgan mise sur ce quartier. Ce n'est pas vraiment un hasard. Ce district donc a repris des couleurs parce que les employés y sont revenus travailler en présentiel, comme on dit. Coïncidence, c'est Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, qui avait fait de la lutte contre le télétravail un véritable cheval de bataille. Et un symbole politique également, l'annonce de JP Morgan est tombée le lendemain des annonces budgétaires de Rachel Reeves, ministre des Finances britannique. La priorité accordée par le gouvernement britannique à la croissance économique a été un facteur déterminant dans notre décision, a déclaré Jamie Dimon. Et c'est enfin un symbole historique. En 1993, dans l'émission Permis de construire, l'architecte Bart McClure revenait sur les origines de Canary Wharf et ce qu'elle raconte aussi du capitalisme.
C'était le temps de Thatcher. C'est du thatcherisme pur et dur. Les capitalistes savent ce qui est mieux pour la société, dans les laisse faire. Ils sont trop réglementés par ailleurs. De cet aspect-là, c'est peut-être une forme d'expérimentation à l'échelle réelle. Donc on a laissé aux gens le soin de faire ce qu'ils voulaient, l'activité qu'ils voulaient sur les terrains. On rendait un terrain complètement équipé. On donnait aux gens un bail de 100 ans. Et c'était à eux d'aller faire ce qu'ils voulaient.
Et je referme là cette parenthèse, on redescend de quelques étages pour se pencher sur le cas de l'entreprise de cœur artificiel Carmat. Aujourd'hui, le tribunal des affaires économiques de Versailles rend son jugement sur la nouvelle offre de reprise. Cette entreprise donc de fabrication de cœur artificiel qui en juin dernier se déclarait en cessation de paiement à travers la voix de son directeur général Stéphane Pia.
Je m'adresse à vous afin de demander votre soutien à Carmat. En effet, la société doit faire face à un besoin de trésorerie important à très court terme. Étant donné la conjoncture actuelle et l'extrême difficulté à lever des fonds sur les marchés financiers, nous lançons aujourd'hui une initiative unique en son genre, une campagne de dons ouverte à tous pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'aider Carmat dans sa mission de sauver la vie des patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée.
Bah, c'est malheureux, hein, mais je vais vous dire, Carmat, on n'y a jamais cru. On n'y a jamais cru parce que le cœur est trop gros, parce que la taille du marché était complètement surestimée et parce que il y avait quelque chose qui poussait Karma, qui était cette idée d'un Concorde français qui est jamais très bonne pour les investisseurs.
Et ces quatre batteries, je dois les changer entre 4 et 6 heures, suivant l'activité, justement. Et en fin de compte, elles gèrent comme un cœur. C'est-à-dire que vous avez besoin d'effort, la pompe s'accélère, et quand vous êtes au repos, la pompe rediminue. C'est extraordinaire. Je suis en train de mourir, je le sais. On connaît pas la durée de vie de la prothèse. On distribue des millions à droite, à gauche, alors que là, on parle de 150 millions pour garder la société Carmat à flot, hein, sur 5 ans, donc 30 millions par an. J'ai du mal à comprendre. Puisque le couperet va tomber, venez me débrancher. Ce sera pareil. Je meurs avec Carmat. Et ça me fait mal au cœur.
On est très frustrés et très déçus parce qu'on a un produit qui est vraiment super. On a un produit qui permet de sauver des vies. On a un produit qui est vraiment intéressant à fabriquer. C'est une technologie qu'on est sûrement les seuls à faire dans le monde, qui est en train de démontrer que ça fonctionne. On a eu beaucoup d'implantations ces derniers mois. Les retours des hôpitaux sont très bons. On a même commencé à préparer des implantations aux États-Unis. Donc, si vous voulez, tous les voyants ont été au vert. Et donc, le fait qu'on soit arrêté brutalement comme ça, c'est très, très dur à vivre et très, très dur à accepter pour l'ensemble des équipes Carmat.
On entendait donc les voix de Stéphane Pia, puis celle de Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France en juillet dernier, puis celle d'un patient de Carmat et enfin celle de Sébastien Aubry, responsable des productions de Carmat, qui témoignait de son incompréhension face à la déroute financière de l'entreprise. Alors de quoi l'absence de financeurs prêts à soutenir Carmat est-elle le signe? Faut-il voir une défaillance de la part de l'entreprise, de son secteur ou de façon plus générale, l'idée que le risque n'attire plus les financeurs? Ce sont toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho avec nos deux invités. Julien Cottineau, vous êtes journaliste à l'Usine Nouvelle, et Julien Pénin, vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Strasbourg. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Julien Pénin, je précise que vous êtes avec nous à distance depuis Strasbourg et je remercie Bertrand Aguilar qui assure la liaison avec nous ici à Paris. Julien Cottineau, commençons par la séquence qui nous mène jusqu'à la décision que doit prendre aujourd'hui le tribunal des affaires économiques de Versailles. Lorsque Carmat se déclare en cessation de paiement le 30 juin dernier, est-ce que c'est une surprise? Est-ce qu'on tombe de haut? Qu'est-ce que cela dit aussi de Carmat et de la vision qu'on en avait jusqu'ici?
Oui, ça a été une surprise parce que a priori ça avançait plutôt bien. Apparemment, ils sont à peu près les seuls. Il y a qu'un seul autre cœur sur le marché commercialisé, qui est un cœur qui date des années 1980, un cœur artificiel total. Il y en a que deux, Carmat et celui de Syncardia, l'américain. Donc a priori, il y a quand même un marché, il y a des patients qui pourront en avoir besoin. Pour l'instant, c'est pas... Enfin, l'indication, c'était pour un plan à la transplantation. Donc, c'était pas une prothèse, pour le moment, qui était indiquée pour un remplacement total, oui. Intégral. Donc, les essais cliniques, le développement clinique avait l'air de bien fonctionner. Donc oui, c'était plutôt étonnant. Après, ce qui est moins étonnant, c'est qu'on voyait que le cours de bourse s'effritait depuis un moment. On voyait aussi que les appels, la campagne de dons était extrêmement surprenante. C'est assez rare pour une telle entreprise. Mais les appels de fonds, enfin les levées de fonds étaient de plus en plus régulières, de moins en moins conséquentes. Donc là, financièrement, on sait que ce genre de société pourra arriver à une rentabilité. Il l'avait déjà dit, hein, qu'il faudrait 4-5 ans déjà à partir de là d'aujourd'hui, encore 4-5 ans avant la profitabilité.
Il y avait donc effectivement des signaux plus ou moins faibles qui traînaient. Carmat, je le rappelle, c'est une entreprise française, 30 ans de recherche, 550 millions d'euros d'investissement, 122 patients en insuffisance cardiaque terminale soignée. Elle compte 181 salariés, c'est aussi une usine dans les Yvelines. Julien Pédin, de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut dire que Carmat, c'était finalement un peu l'exemple de la start-up qui avait tout pour réussir ?
Alors, oui et non, en fait. Hein. Carmat, c'est d'un certain point de vue, effectivement, l'exemple du modèle d'affaires d'une start-up très ambitieuse et qui fonctionne jusqu'à un certain point. Donc, on est dans le biomédical, on est sur quelque chose de très prometteur avec un marché important, on a une équipe scientifique de qualité avec un projet scientifique très ambitieux, et dès le départ, on a des financements qui sont abondants, publics et industriels. Mmh. Donc ça, effectivement, c'est assez typique. Ensuite, Carmat, on l'a dit, c'est quand même un modèle d'affaires extrêmement haut de gamme, donc très ambitieux. On n'est pas dans le domaine du médicament, on est dans le domaine du dispositif médical, qui est encore plus compliqué. Et finalement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, Carmat cumule les problèmes d'une vieille start-up et d'un jeune industriel, avec des problèmes d'industrialisation, cumuler standardisation et personnalisation. Et donc, moi, je suis pas spécialement surpris de l'annonce qui a été faite par le directeur de BPI, notamment. C'est vrai qu'on est quand même sur une start-up très atypique.
Alors, on va revenir sur le cas de BPI, parce que il s'inscrit finalement relativement tôt. Enfin, la banque d'investissement s'est inscrite relativement tôt dans le parcours de Carmat. Je crois qu'elle est présente dès 2016 aussi pour abonder en termes de fonds. Donc, c'est vrai que cette annonce de Nicolas Dufour qui a beaucoup fait réagir, et notamment les dirigeants de Carmat, hein, qui ont vu un signe assez négatif, on va dire. Julien Pénin, juste pour qu'on comprenne bien, quand même, mi-juin 2025, Carmat annonce un besoin urgent de financement de l'ordre de 3,5 millions d'euros pour boucler le mois et 20 millions d'euros pour le reste de l'année. Est-ce qu'il y a un problème de rentabilité là, à cet endroit-là ? Est-ce que c'est ça le problème fondamental de Carmat ?
Alors, c'est le problème fondamental des startups en général. Une startup, hein, c'est à l'origine une entreprise qui vit sur une promesse et qui donc ne réalise pas de chiffre d'affaires. Et si elle réalise un chiffre d'affaires, en tout cas pas de bénéfice. Et donc, pendant un certain temps, elle a besoin d'investisseurs, et elle va brûler l'argent qui est investi. Et donc, ça peut durer plus ou moins longtemps, selon effectivement les évolutions du projet et selon les croyances des investisseurs. Dans le cas de Carmat, ça a quand même duré très longtemps. Vous l'avez dit, il y a eu des centaines de millions d'euros investis publics, privés. Et à un moment donné, évidemment, les investisseurs se questionnent de plus en plus. Et les problèmes, il faut vraiment distinguer les problèmes de santé publique et les problèmes industriels. Et aujourd'hui, il semble qu'effectivement, Carmat se heurte à des problèmes industriels qui refroidissent les investisseurs.
Julien Cotineau, pour bien comprendre aussi ce dont on parle quand on parle de Carmat, on le comprend, on l'a déjà commencé à le dire, finalement c'est aussi une forme d'exemple par excellence du modèle économique des startups, mais dans un secteur qui est très spécifique. Il faut quand même le préciser, fabriquer des cœurs artificiels, ça en fait une entreprise de technologie médicale, les fameuses MedTech, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Julien Cotineau, de façon générale, est-ce que ce secteur-là se porte bien en France ? Est-ce que, au-delà du cas de Carmat, c'est un secteur qui est plutôt dynamique ?
C'est un secteur très riche, hein, parce que dans le dernier Panorama disponible de France Biotech, ils en comptabilisent à peu près 1393 MedTech comptabilisés en 2024. On parle de 84 000 salariés. C'est essentiellement des petites entreprises, hein, plus de 90%, exactement. Mais c'est quand même un marché d'une valeur de 32 milliards d'euros, c'est pas rien. On parlait du financement un petit peu, je pense qu'on en reparlait aussi, mais il y a un petit rebond apparemment depuis l'an dernier sur le financement de ces entreprises. Beaucoup de startups qui brûlent du cash, ça arrive.
Et puis Julien Pénin, être une start-up dans les medtech, c'est loin d'être anodin, c'est un domaine, ce domaine biomédical, qui a vu les toutes premières start-up se créer. Pour quelles raisons? Pourquoi il y a une incointance comme ça entre modèle économique des start-up et puis ce secteur-là du biomédical?
Alors absolument, hein, si on fait un peu d'histoire de l'innovation, les premières start-up se créent dans les années 70. S'il faut dater les choses, on a souvent tendance à dire que la première start-up dans le domaine des biotechnologies aux États-Unis, c'est 1973, c'est Genentech. J'ai souvent entendu dire qu'en France, la première start-up, c'est une entreprise qui s'appelle Transgène, c'est 1979. Et donc c'est un parallèle avec l'économie de la connaissance, hein, la start-up, voilà, c'est un exemple de comment fonctionne l'économie de la connaissance. Et dès le départ, c'est dans le biomédical, hein, parce qu'on est dans un domaine qui se prête très bien aux start-up. Il faut bien comprendre qu'une start-up, c'est un état transitoire. C'est un état intermédiaire entre la science et l'industrie. Et dans le domaine du biomédical, on est dans un domaine très fortement basé sur la science. Donc, les startups sont très ancrées. Il y a des collaborations avec les universités, le CNRS, etc., l'INSERM. Et d'un autre côté, le domaine de la santé, c'est un domaine très réglementé. C'est très compliqué de devenir un industriel dans le domaine de la santé. Et donc, il y a assez naturellement un espace entre la science et l'industrie pour des startups.
Et on le voit, le cas Carmat est assez emblématique aussi de ce mode de fonctionnement-là, de cet univers économique-là, ce qui pose la question plus générale de savoir si c'est le modèle de financement des startups qui est aujourd'hui obsolète ou en tout cas touché par une espèce de frilosité au risque potentiellement. Alors pour comprendre si c'est véritablement le cas, il faut revenir aux fondamentaux et se plonger dans la façon dont une startup naît et grandit. Une histoire qui est donc celle de Carmat et que racontait en 2013 son fondateur, le chirurgien Alain Carpentier.
C'est une histoire merveilleuse qui est brièvement la suivante. Il se trouve que Jean-Luc Lingardère m'avait envoyé un ou deux malades à opérer, et en particulier des malades du Moyen-Orient, auxquels il tenait beaucoup, parce qu'il m'écrit en disant « si tu m'opères ce malade, ça me permet de vendre deux Airbus de plus ». Et à charge de revanche, je lui ai dit « ben bon, mais maintenant je t'ai rendu service, tu vas me rendre service. Voilà, j'ai un cœur artificiel, il me faut des ingénieurs et des techniciens de haut niveau ». Et il a ouvert les portes de Matra à l'époque. 20 ans de travail dans le plus grand secret, dans la plus grande discrétion, fonction, encore une fois, de la règle de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, je collabore avec les Américains très bien. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu les Américains, il n'y aurait pas eu ma valve, parce que les recherches que j'ai faites sur la valve, je n'avais pas trouvé le partenaire industriel. Et au moins, je l'ai trouvé pour le cœur artificiel. On est dans la phase de ce qu'on appelle l'industrialisation. Vous ne pouvez pas implanter un appareil chez l'homme qui n'est pas de qualité industrielle. Pourquoi? Parce que si vous réussissez, le lendemain, vous ne pouvez pas l'implanter chez d'autres malades. Donc, depuis un an et demi, on est passé à la phase d'industrialisation. Et cette phase d'industrialisation nécessitait que nous fassions une société. C'est la société Carmat. Et cette société, elle fabrique le produit de qualité industrielle qui est progressivement étudié avec beaucoup d'attention par la FSAP.
En 2013, donc, on en était à l'étape de l'industrialisation. C'est une histoire très particulière que celle de Carmat, Julien Cotineau. Il y a une forme de paradoxe. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'elle est très complexe et je renvoie les auditeurs, les auditrices à un très bon article qui a été rédigé à ce sujet qu'on peut retrouver sur le site d'Usine Nouvelle. Mais il y a une sorte de paradoxe. On pourrait se dire qu'avec 1,5 million de Français qui souffrent d'insuffisance cardiaque, on pourrait se dire que la demande est là, que par ailleurs, il y a un véritable marché pour les prothèses qui n'est pas un marché uniquement de niche, une prothèse prothèse est valorisée à 200 000 euros. Bref, il y a une vraie opportunité économique. Et pourtant, et c'est là où je brûle les étapes, pourtant, dès 2016, lorsque la BPI se penche un peu sur le cas de Carmat, très vite, les analystes de la BPI disent « Attention, ce projet-là, il est risqué. On y va, mais on y va avec beaucoup de prudence. » Comment expliquer que dès le départ, on se dise « Pas sûr que ça tienne. » Et en même temps, on met quand même de l'argent. Il y a une sorte d'incohérence dans l'histoire de Carmat. Est-ce qu'on saurait l'expliquer, Julien Cotineau?
Ça va être compliqué d'expliquer BPI France. Hein, je ne vais pas pouvoir parler. Je reviens juste sur un chiffre que vous avez dit. Il y a effectivement... la taille du marché, c'est quelque chose qui a été assez récurrent. Il n'y a pas 1,5 million de personnes, par exemple, en France, qui ont besoin d'une... Il y a 1,5 million de personnes qui ont de l'insuffisance cardiaque.
Ça ne veut pas autant dire qu'ils ont besoin d'un
Carmat. La prothèse Dyson, elle est vraiment sur des stades très, très avancés. Quoi. Donc, c'est pas exactement ce marché. Je crois que Carmat parlait plutôt d'un marché Europe-États-Unis de 150 000 patients par an. Mmh. Mais ce sont des gens qui ne peuvent pas non plus attendre très longtemps.
Oui, il y a une forme d'urgence.
Il y a une vraie urgence. Pour l'instant, la prothèse était utilisée comme pour la transplantation. Ce qu'il faut, c'est une greffe. Sauf que des greffes, il y a 150 000 patients Europe-États-Unis, il y a entre 7 000 greffes possibles par an. Vous voyez, le delta est assez conséquent.
Julien Pénin, on arrive là à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une question que je me suis posée en tentant de démêler cette histoire très complexe de Carmat. Il y a certes un enjeu de financement, qui est la raison pour laquelle il y a cette cessation de paiement fin juin 2025, mais en fait quand on lit cette histoire, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont accumulées au cours du temps. Il y a presque un enjeu de gestion, il y a cette idée que on n'avait pas forcément prévu que passer à l'échelle industrielle ne serait pas si simple que cela, ce qui fait que les fournisseurs n'ont jamais fait de Carmat une priorité en soi. Il y a eu tout un ensemble de décisions, notamment lors de l'introduction en bourse en 2010, qui ont fait qu'il y a eu une forme d'excès de confiance. Et dans tous les témoignages qui retracent cette histoire, il y a cette idée qu'il y a un cheval qui s'était emballé, des excès d'optimisme, voire carrément parfois des informations plus ou moins cachées. Est-ce que le vrai problème de Carmat, ce n'est pas tant l'accès au financement qu'un problème de gestion de l'argent qui, au contraire, a été octroyé?
Alors, Et c'est assez standard hein, dans le cas des startups qui sont à la base effectivement des entreprises de technologie avec une base scientifique souvent extrêmement forte et parfois quand on discute effectivement avec les investisseurs, là où le bas blesse, c'est dans le modèle d'affaires si vous voulez effectivement la capacité à se projeter sur un marché sur l'économique. Donc c'est assez standard dans le cas de Carmat. Hein, vous l'avez dit, on est vraiment sur du très très haut de gamme, hein, ce qui explique que le marché n'est pas, comme ça vient d'être dit, n'est pas aussi important qu'initialement imaginé. Et on est sur du très très haut de gamme. C'est BPI à nouveau qui faisait l'analogie avec le Concorde, avec les risques inhérents. Hein. On est sur un projet extrêmement ambitieux de faire un cœur global totalement artificiel. C'est totalement inédit dans le monde. Et donc, c'est pas surprenant de se heurter à un certain nombre d'obstacles dont certains vont être insurmontables. Si au début du projet, on était capable de tout imaginer comme dans du management de projet standard, ça ne serait plus une start-up, finalement.
Oui, cela dit, il y a quand même des étapes qui posent question dans l'histoire de Carmat. Aujourd'hui, Julien Cotineau, Stéphane Piak, le directeur général de Carmat, parle, on a repris cette comparaison du Concorde, mais il lui fait une autre comparaison, c'est celle du SpaceX, du cœur artificiel. Pourquoi cette comparaison, sachant qu'il y a un discours qui est assez véhément, assez critique vis-à-vis de l'action de l'État qui les a laissés tomber via ce retrait de la BPI? Pourquoi cette métaphore du SpaceX, finalement, du cœur artificiel?
Parce que c'est de la très haute technologie par rapport au cœur qui existe. Le seul autre cœur qui existe, ils sont visiblement beaucoup plus avancés. Après, je pense que derrière le SpaceX, l'image, c'est le problème des financements. Surtout récemment, dans les dernières communications qu'il a pu faire ces derniers mois, il comparait le SpaceX pour dire qu'il y a toutes ces énormes entreprises de tech américaines qui ont brûlé un cash incroyable, qui ont fait plusieurs fois faillite, mais qui ont toujours trouvé des soutiens financiers et qui parfois ont réussi à se relever entièrement, style SpaceX et avec le succès qu'on connaît aujourd'hui.
Julien Pénin, est-ce que, et ce serait peut-être le mot de conclusion, est-ce que véritablement le problème est celui du financement? On a de plus en plus de mal à financer le risque aujourd'hui, et spécifiquement en France, et donc au-delà des États-Unis. Point de salut, est-ce que c'est ça la situation actuelle au-delà du cas de Carmat pour un certain nombre de startups?
Alors, pour les startups, oui, le nerf de la guerre, mais comme souvent en économie, hein, c'est le financement. Et c'est un problème au-delà de la France, c'est un problème européen. Et énormément de startups qui commencent à faire leurs preuves, à un moment donné, vont partir aux États-Unis pour des questions de financement. C'est vraiment parce que, effectivement, les fonds de capital risque, les levées de fonds, enfin, les montants sont incomparables. Et donc, oui, dans le cas des startups, évidemment, le financement peut justifier la comparaison avec SpaceX.
On voit que deux questions se posent, finalement, celle de savoir qui a encore les moyens et la volonté de mettre ces financements sur la table, et puis une question plus vaste sur laquelle on reviendra peut-être dans Entendez-vous l'écho, mais c'est de savoir si les scientifiques font de bons entrepreneurs, c'est toute la question de la gestion, et c'est une question tout à fait sérieuse. Un grand merci à tous les deux, Julien Pénin et Julien Cottineau, d'avoir participé à cette émission. Julien Pénin, je rappelle que vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Strasbourg, et Julien Cottineau, vous êtes journaliste à l'Usine Nouvelle.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Aliette Ovine.
J'ai découvert en vous écoutant qu'on avait des prévisionnistes de l'économie. Ils sont combien?
15 000. C'est-à-dire qu'on a 15 000 personnes qui sont censées te prévoir la croissance et donc la trajectoire budgétaire, etc., etc., taux de chômage. Bon, ils sont 15 000, c'est-à-dire deux fois plus que le nombre de magistrats.
Ça veut dire que ces 15 000 personnes n'avaient pas réussi à prévoir potentiellement qu'on avait des trous de plusieurs milliards qui allait apparaître?
C'est fascinant. Il n'y a aucune organisation au monde qui pourrait avoir une prévision de recettes avec une erreur de 30% à la moitié de l'exercice. Ça n'existe pas.
C'est un extrait de l'émission 20h30 le dimanche qui a beaucoup tourné ces derniers temps. Le 23 novembre dernier, Jean-Louis Borloo était l'invité de France 2, au micro donc de Laurent Delahousse, et tirait à boulet rouge sur les prévisionnistes. Accusés de ne pas avoir réussi à prévoir le dérapage budgétaire, les prévisionnistes donc sont régulièrement pointés du doigt pour n'avoir précisément pas réussi à prévoir les événements économiques qui ont fini par survenir. C'est pas la première fois. Alors comment expliquer que cette capacité à prévoir reste malgré tout au cœur d'une expertise revendiquée par toute une profession ? C'est justement en essayant de comprendre comment les prévisionnistes trouvent des parades au caractère fatalement imprévisible du futur que notre invité du jour met en lumière le travail qui est accompli par ces individus qui deviennent de véritables professionnels de l'incertitude, une nouvelle catégorie d'experts économiques donc que nous analysons aujourd'hui en compagnie d'Olivier Pilmis, sociologue chargé de recherche au CNRS affecté au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Olivier Pilmis, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en studio. Alors on a vu au cours de cette série, dont on est aujourd'hui au troisième épisode, que l'expert était celui qui était en mesure d'éclairer la décision publique, pas de la prendre, mais de l'éclairer au sein d'institutions dédiées, qu'elles soient sous la tutelle de l'État ou non. Quelle définition donneriez-vous vous-même de l'expertise économique et surtout, qu'est-ce qu'un expert économique selon vous ?
En ce qui me concerne, l'expertise économique, c'est surtout la prévision macroéconomique. Donc c'est un sous-champ, si j'ose dire, de cet espace-là. Et en fait, elle se définirait par... de manière assez large, en fait, par la détention d'un certain type de savoir et de compétences en sciences économiques, généralement sous la forme d'un master, parfois sous la forme d'un doctorat, mais surtout, en fait, en particulier dans le cas français, par la détention, enfin, par l'obtention d'un titre, pour le dire un peu comme ça, celui que défini par Marion Fourcade, sous le titre d'ingénieur économiste, et en fait, le fait d'avoir été d'être un ancien élève de deux écoles d'ingénieurs particulières, dans le monde français, l'école polytechnique d'un côté, l'ENSAE de l'autre. Et en fait, cette expertise se traduit par la maîtrise d'un certain nombre de modèles, de compétences, de notions, d'identité comptable en particulier, sur lesquelles on reviendra peut-être, qui permettent finalement d'éclairer, la situation présente, et après de projeter cette situation présente dans un futur plus ou moins distant.
À l'aide d'outils qu'on va également aborder aujourd'hui. Je vous voyais hocher la tête pendant l'extrait de Jean-Louis Borloo. Pourquoi ? Spécialement peut-être au moment...
Parce que c'est un cas absolument remarquable. À la fois, effectivement, vous le signaliez en fait dans votre lancement, si je ne me trompe pas, il tire à boulet rouge sur l'économie, enfin sur la prévision économique en l'occurrence.
Oui, oui.
Et pour avoir raté l'événement, en quelque sorte.
Et par ailleurs, il y avait toute une comparaison aussi sur l'idée que les prévisionnistes représentent tant de salaires d'infirmières, par exemple.
Il disait 15 000 personnes, si je ne me trompe pas.
15 000 prévisionnistes,
À ma connaissance, il n'y a pas de chiffre qui recense les prévisionnistes économiques tels que je l'entends en tout cas, après les détenteurs de titres universitaires en économie, ça en doit avoir une idée que je n'ai pas moi-même pour le coup, je suis désolé.
J'ai cherché le nom de prévisionniste, effectivement, c'est pas quantifié.
Bah oui, oui exactement, c'est-à-dire que vous avez de... Bah, vous pouvez trouver des gens qui travaillent dans, par exemple dans les banques, dans les administrations économiques, etc. Mais bon, ça c'est une catégorie qui est très large. Vous pouvez trouver des gens qui sont détenteurs de certains titres, c'est également très large. Mais surtout, ce qui m'intéressait dans l'extrait que vous indiquiez, c'est qu'en fait, c'est une figure qui revient très régulièrement. En fait, c'est-à-dire le fait de tirer à boulet rouge sur les économistes pour avoir raté un événement, c'est ce qu'on a retrouvé en 1929, c'est quelque chose qu'on a retrouvé de manière extrêmement massive en 2008.
Même la reine d'Angleterre, c'était...
Exactement, vous avez effectivement un exemple assez fameux en novembre 2008 de la reine d'Angleterre visitant un salon d'un School of Economics et interrogeant les économistes locaux pour demander comment se faisait-il qu'ils n'avaient rien vu venir. Et donc, c'est vraiment une figure qui renvoie en fait au fait que, profondément l'activité de déchiffrage du futur est par définition, enfin sauf dans la mythologie grecque, une activité qui voit l'échec en fait à certains égards, au sens où si on considère que cette activité consiste à fournir les chiffres qui décrivent précisément ce que serait ce futur.
Mais dans ce cas, Olivier Pilmis, on a un peu envie de se demander pourquoi s'acharner, pourquoi on exige des économistes, en tout cas de certains économistes qui sont les prévisionnistes, d'avoir cette vision du futur. Pourquoi c'est aux économistes qu'on demande cela? Est-ce qu'il y a une forme de légitimité scientifique derrière?
Il y a d'une part une forme de légitimité scientifique qui est celle, en gros, du diplôme, d'une science reconnue comme étant désormais une science de gouvernement par excellence. À certains égards, vous signaliez également que c'est une aide à la décision publique, mais c'est également une aide à la décision privée. À certains égards, c'est-à-dire qu'on retrouve des prévisionnistes économiques, certes au gouvernement, à la Banque de France, pour prendre les institutions françaises, mais on les retrouve également dans leurs homologues à l'étranger ou communautaires. Mais c'est également des catégories qui sont là dans les banques privées, dans des compagnies d'assurance, etc. Et donc pourquoi on se tourne vers eux? Alors d'une part, parce qu'en fait le futur qu'on leur demande de prévoir, c'est un futur particulier, c'est le futur économique. Donc effectivement, c'est le futur qui est adéquat, si j'ose dire, à leurs compétences. Et d'autre part, il s'agit aussi vraiment d'aider à la décision. En fait, c'est-à-dire effectivement, toutes les décisions qu'on prend relatives à l'économie sont des décisions qui sont orientées vers le futur. Des dépenses dans le cadre d'un gouvernement, typiquement dans le cas de qu'évoquait Jean-Louis Borloo dans votre extrait, dans le cas d'une banque qui veut faire un investissement, d'une entreprise, etc. Il s'agit toujours de s'orienter vers le futur. En fait, de ce point de vue-là, essayer de démêler les grands échevaux de ce à quoi va ressembler ce futur, c'est effectivement un souci qui n'est pas totalement illégitime.
Alors là, Olivier Pilmis, vous me fournissez une transition toute trouvée, parce qu'on s'était quitté avec les deux épisodes précédents sur une idée d'une prévision qui était largement sous la tutelle de l'État au sein du ministère des Finances. Et vous venez de le dire, désormais, aujourd'hui, hein, encore c'est le cas, la prévision est aussi affaire privée. Il y a des départements de prévision au sein de banques, d'assurances, en fonction de la taille aussi de l'entreprise, bien sûr. Pourquoi il y a un tel éclatement alors que, à la fin des années 70, il y avait une espèce d'excellence à la française menée par des groupes de recherche qui s'intéressaient aussi à l'application de l'économie, c'était les Robert Boyer et compagnie. Pourquoi il y a ce monopole, on va dire, public de la prévision qui finit par éclater?
Bah, d'une part, il a éclaté. Historiquement, on a voulu qu'il éclate, déjà, pour commencer. Ce qui, en fait, c'est notamment dans le cadre d'une réforme qui a été faite au début des années 80, orientée à la suite d'un rapport commandé à René Lenoir et Baudouin Pro. René Lenoir, qui était un ancien secrétaire d'État à l'époque, qui était l'auteur d'un bouquin qui avait fait fureur sur les. Enfin, fureur, qui avait un succès de librairie, sur les exclus. Et Baudouin Pro, qui était à ce moment-là un jeune inspecteur des finances, qui n'était pas encore le président directeur général de la BNP, qui deviendra par la suite. Et en fait, ce rapport préconisait de faire éclater en quelque sorte un oligopole public de fait entre l'INSEE, la direction de la prévision et d'autres instituts qui m'échappent maintenant, désolé, pour le faire concurrencer finalement par d'autres instituts, donc par exemple l'IRES, l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui sont créés par la suite. Donc déjà, ce monopole ou cet oligopole a éclaté parce qu'on a voulu qu'il éclate. Et d'autre part, en fait, pourquoi il y a aussi désormais de plus en plus, ou en tout cas davantage que par le passé, de prévisionnistes dans des banques privées, des compagnies d'assurance? En fait, on peut y voir plusieurs raisons que je vais évoquer plutôt à titre d'hypothèse, que j'ai pas totalement la preuve là-dessus, mais c'est des hypothèses qui me semblent crédibles, en tout cas, qui sont d'une part le fait qu'il y a beaucoup plus d'économistes qui sont formés. C'est-à-dire, déjà, bêtement, en fait, il y a une manœuvre qui peut faire.
Démocratisation de l'accès à l'économie.
Il y a des gens qui peuvent le faire, en fait, d'une part. Et d'autre part, et également, pour rebondir sur une remarque de votre émission la semaine dernière sur les modèles, effectivement, développer des modèles, c'est coûteux, pas c'est coûteux parce que ça demande du temps, en fait, en particulier. Et en fait, ces modèles-là sont de moins en moins coûteux, ou plus exactement, pas ces modèles-là, mais d'autres modalités de modélisation qui reposent en fait non pas sur des grands modèles économétriques ou macroéconométriques, mais qui reposent sur des tableurs Excel. Par exemple, des tableurs Excel sont évidemment des beaucoup plus modestes que des modèles qui se représentent comme des grands systèmes d'équations, de plusieurs centaines d'équations qu'il faut résoudre tout simultanément avec des boucles de rétroaction. Mais des tableurs Excel qui juste assurent que ce qu'on va dire du futur respecte les grandes identités comptables. Et en fait, ça a l'air idiot, mais l'invention du tableur Excel, à un moment donné, peut contribuer au fait que c'est de moins en moins coûteux de développer des modèles plus modestes, mais malgré tout, qui sont assez efficaces.
Donc même quand on a une relativement petite structure, ou en tout cas quand on n'a pas la puissance, on va dire, de vision d'un institut public, donc même quand on est plus segmenté au sein du privé, on a quand même un intérêt à se lancer dans la prévision.
Oui, tout à fait. Pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes... Et surtout, par ailleurs, vous voulez aussi une prévision qui n'est pas forcément celle... Enfin, vous posez des questions à laquelle la prévision publique ne répond pas forcément.
C'est ça, qui concerne plus directement votre secteur plus
typiquement, vous êtes une compagnie d'assurance, vous avez beaucoup de placements financiers. Anticiper les taux d'intérêt, pour vous, c'est très important. Et c'est peut-être plus important que ça l'est, par exemple, pour un gouvernement qui veut anticiper davantage du PIB, des dépenses publiques, pour, par ailleurs, anticiper à la fin des prélèvements obligatoires.
Olivier Pimis, il y a une question que je voulais vous poser. Je pense que la réponse n'existe pas, mais je tente tout de même ma chance. Est-ce que c'est aussi un contexte du début des années 80, où il y a un nouveau rapport à l'incertitude qui se formalise? On pourrait se dire que la planification a peut-être moins de force que ce qu'elle n'en avait au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est une mondialisation aussi à un rythme assez accéléré. On pourrait se dire qu'il y a plein de variables sur lesquelles on n'a plus tellement la main et qu'on a une forme de besoin de se rassurer, un besoin de certitude. Est-ce que ça, c'est une hypothèse qui se vaut?
Maintenant, sur le besoin de certitude, effectivement, pour l'inquiétude, je n'ai pas particulièrement la réponse. Mais à tout prendre, j'aurais peut-être tendance à en douter en tant que besoin vraiment ressenti par les acteurs, dans la mesure où, justement, en fait, il y a tout un monde de la prévision économique qui existe avant les années 80, bien avant. Enfin, au 19e siècle, on en trouve des traces avec les travaux de Juglar. Par exemple, dans les années 20...
Des modèles assez sophistiqués aussi.
Exactement, ce sont des modèles, pour l'époque, extrêmement sophistiqués. Enfin, effectivement, il n'y a pas d'informatique à l'époque, pour des raisons évidentes. Mais les modèles sont extrêmement sophistiqués. Et vous retrouvez également un monde extrêmement vivace dans les années 20-30, en particulier en Allemagne, en particulier aux États-Unis, avec beaucoup de petites instituts de recherche qui proposent de la prévision, généralement précisément d'ailleurs pour des acteurs plutôt privés, ce qui n'est pas tout à fait inintéressant. Un monde qui est pour partie balayée par la crise de 29, donc je serais assez prudent, pour le dire comme ça, par rapport à l'idée d'un besoin croissant de prévision à partir des années 80.
Donc on le comprend, on se retrouve avec quand même une très grande diversité d'acteurs qui s'occupent de prévision dans les grandes banques, les principales compagnies d'assurance, des institutions qui restent publiques malgré tout, INSEE, Banque de France, FMI, OCDE, Direction Générale du Trésor, Banque Centrale Européenne, ça fait quand même du monde à la fin. Et face à cette prolifération, Philippe Sigogne, qui était directeur de l'OFCE, prêchait pour sa paroisse, c'était en 2000, sur France Culture.
Alors c'est vrai que nous avons des collègues privés aussi, et ils relèvent de différentes tendances. Il faut se rappeler qu'en 1980-81, c'est le gouvernement lui-même qui a pris l'initiative de créer des instituts privés parce que tous ceux que vous m'avez cités précédemment étaient du domaine public. Et donc, il y avait un monopole public de l'analyse et de la prévision économique qui semblait donner un peu la part trop belle donc, aux administrations, et sans effet de retour et sans vraiment un débat public. Donc, ce que l'on a vu, c'est favoriser le débat public. Les services bancaires, alors, ça prolifie, parce que vous avez les banques françaises, mais vous avez les services des banques étrangères, vous avez les services des maisons de titres, Morgan Stanley, JP Morgan, and so on. Et vous avez donc tous ceux qui pensent avoir un mot à dire sur le sujet, avec des moyens, évidemment, extrêmement variés d'un institut à l'autre. Donc, pour prêcher pour mon sein et ma maison, je dirais que des organismes de la taille d'une autre et qui allouent une vingtaine de personnes en permanence à l'analyse macroéconomique et au suivi des économies étrangères, il n'y en a pas énormément sur la place publique. Et dans le domaine privé, il n'y en a pas vraiment d'équivalent, parce que ceux des banques ont beaucoup d'activités de marché en dehors de cela, donc ne sont pas uniquement dédiés à cette activité. Et dans le domaine des autres entreprises, évidemment, n'ont pas les moyens de se lancer dans la macro, qui est un bien public.
La macro qui est un bien public, c'est une précision d'importance, Olivier Pilmis. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas toujours une forme de monopole à partir du moment où, on l'a compris, pour pouvoir faire des prévisions qui ont du sens, qui soient un minimum crédibles, il faut des données, et ces données, ça reste l'État qui les rassemble et qui les agrège?
Ah, tout à fait, oui. C'est là-dessus qu'en fait la contestation du monopole public dans les années 80 qui était évoquée vraiment par Philippe Sigogne dans des termes qui évoquaient en particulier au début de l'extrait que vous avez présenté, les propos mêmes du rapport Le Noir Pro que j'évoquais, c'est vraiment, on a l'impression que c'est repris directement de pages entières du rapport. Donc la contestation de ce monopole-là était entre guillemets imparfaite, dans la mesure où effectivement, les données qui vous permettent de décrire l'état présent de l'économie et donc... effectivement, enfin qui est l'une des étapes d'une entreprise de prévision, d'abord savoir où on en est pour ensuite se projeter dans le futur. En fait, ces données-là reposent encore très largement sur des instituts publics qui sont, par exemple, la Banque de France pour les enjeux de taux d'intérêt, la BCE également pour d'autres éléments, et particulièrement l'INSEE pour tout ce qui est en fait, en gros, indice de production industrielle, comptes nationaux, etc., etc.
On le comprend, Olivier Pilmis, et on a déjà commencé à l'aborder avec cette question des données. Finalement, il y a tout un arsenal, un éventail d'outils qui sont mis à disposition des prévisionnistes pour réduire cette incertitude à laquelle ils sont confrontés au quotidien. C'est littéralement leur travail, à commencer par les données. Est-ce que ces données-là, pour autant, sont une espèce de blanc-seing ou en tout cas une garantie que tout va être traité de façon objective? Est-ce que la production même des données n'est-elle même pas tout à fait objective et pas si scientifique que cela? Enfin, en tout cas, scientifique, si, mais que ce n'est pas une garantie non plus de crédibilité absolue.
Ah ben, en tout cas, les données sont interrogées en permanence par les économistes qui les utilisent, par les statisticiens qui les produisent typiquement au sein de l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Et en particulier, parce qu'en fait, ce sont des données qui reposent sur toute une série de conventions qui, parfois, peuvent être remises en cause. Typiquement, parfois, ces conventions changent et donc des séries entières doivent être revues parce qu'il faut revoir le passé dès lors qu'on change les conventions présentes. Mais également qui sont revus parfois, parce qu'en fait ces données-là sont révisées régulièrement. C'est-à-dire que par exemple, pour prendre un exemple qui est vraiment très simple mais qui est assez éclairant, enfin les premières estimations du PIB français de l'année 2025 seront données à la fin du premier trimestre 2026, si je me trompe pas. Il s'agira de premières estimations qui seront revues, affinées, précisées, etc. Pendant encore un an et demi après. Ce qui fait qu'en fait, de manière un peu étrange, en fait les deux enfin, la vision du présent, de notre présent en 2025, va être revue progressivement dans le futur. En fait, ou pour prendre un autre exemple qui est peut-être plus simple encore, je me souviens d'un entretien que j'avais fait avec un prévisionniste à propos de la situation de l'Espagne, qui me disait qu'en fait, il avait annoncé une récession espagnole au début des années 2010, et qu'en fait, dans un premier temps, son diagnostic avait paru faux parce que c'était en fait une croissance. Et au bout d'un an et demi, il s'est avéré que c'était bel et bien une récession.
Donc effectivement, il y a une forme de latence, on va dire, de ce point de vue-là. Il y a la donnée, c'est important. On voit que c'est un sujet à interprétation. Et puis il y a ce qu'on fait de cette donnée, comment on construit aussi un récit autour de la donnée pour tout simplement construire un horizon économique. Ça aussi, ça fait partie du travail des prévisionnistes. C'est ce qu'expliquait Hervé Monet, qui était le directeur des études économiques à la Société Générale. Il racontait son travail en janvier 2000 dans l'émission L'économie en question sur France Culture.
Nous utilisons l'ensemble des indicateurs donnés par l'INSEE et bien sûr nous utilisons les données de la comptabilité nationale et puis nous rajoutons à ça notre petit jugement et notre petite sauce personnelle. Le prévisionniste peut se tromper. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, nous, le scénario que nous présentons, nous estimons que c'est le meilleur qu'on puisse faire. Éventuellement, on peut présenter des scénarios de risque, des scénarios alternatifs. Et nous expliquons pourquoi on pense que c'est ce scénario-là qui nous paraît le plus probable. Et ensuite, c'est au client, à la personne qui reçoit ce scénario, de former son propre jugement. Vous avez d'abord, pour ce qui est les prévisions de marché, des prévisions quelquefois qui sont à très court terme, qui sont au jour le jour, qui sont à la semaine. Ensuite, vous avez un deuxième jeu qui est d'avoir un scénario macroéconomique cohérent. Et donc ça, dans ce cas-là, en général, c'est un an, 18 mois. On fait un scénario central. On voit à chaque fois qu'il peut y avoir un scénario de risque relativement brutal qui vienne perturber notre beau scénario central.
Olivier Pilmis, ce que j'ai trouvé extrêmement prégnant dans ce témoignage-là, qui date donc de 2000 et qui en fait illustre très bien une grande partie de vos travaux aussi, c'est qu'il y a certes la mathématisation dont on a parlé, les tableurs Excel, les outils scientifiques, voire informatiques qui se mettent en place, le cerveau même des économistes qui sont formés en tant qu'ingénieurs, mais en fait il y a aussi une énorme place qui est laissée à l'imagination presque, on pourrait dire, ou en tout cas à l'interprétation. C'est ce qui se passe dans l'écriture de ces scénarios. Comment ces deux sphères-là, la sphère à la fois très scientifique
et ce travail d'imagination sont-ils rendus compatibles dans ce travail de prévision ?
Bah, d'une part, parce qu'en fait, cette imagination, elle ne sort pas tout à fait de nulle part. C'est qu'effectivement, cette imagination, elle sort du cerveau que vous avez décrit à l'instant. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui a été formé à regarder une entité qu'on appelle l'économie, elle le regardait d'une certaine manière en utilisant un certain type d'outils. Donc effectivement, c'est pas une imagination qui est complètement débridée, pour le dire un peu,
pour le dire un peu comme ça.
Exactement. Mmh. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on a rencontré typiquement dans les périodes de crise. En fait, vous évoquiez précédemment la fameuse remarque de la reine d'Angleterre visitant la LSI. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une suite à cette histoire. Et en fait, cette suite, c'est qu'en fait, la reine d'Angleterre ayant demandé comment se faisait-il qu'on n'avait rien vu, en fait, les économistes ont répondu parce que c'est la reine d'Angleterre, comme on ne veut pas laisser ça totalement sans réponse. Et donc, ça donne lieu à un magnifique rapport de la British Academy indiquant en conclusion, pour résumer très rapidement, c'est un document qui fait que 3 pages, hein, donc c'est un document qui est assez bref. Et disons qu'en fait, l'échec à prévoir la crise de 2008-2009, c'était en fait le résultat d'un échec de l'imagination collective de beaucoup de personnes très intelligentes, de collective imagination of many bright people. Et on retrouve un peu la même chose en fait dans d'autres circonstances. J'ai également souvenir de prévisionnistes que j'ai rencontrés au moment du Brexit, enfin avant le vote du Brexit précisément, et disant qu'en fait la prévoir le futur du Royaume-Uni, mais aussi potentiellement de l'Union européenne, le futur économique du Brexit à ce moment-là, c'est quelque chose qui était extrêmement compliqué, parce que précisément en fait on ne sait pas du tout à quoi va ressembler ce type d'événement quand on le regarde d'un point de vue économique.
Mais donc Olivier Pilmy, si je suis votre raisonnement, si on comprend que c'est une histoire d'horizon, finalement de capacité à imaginer un futur qui pourrait sembler complètement inimaginable, est-ce qu'on pourrait dire qu'on en vient à douter de la capacité même ou de l'intérêt même du progrès scientifique ? On pourrait se dire assez légitimement qu'avec les outils d'aujourd'hui, les logiciels d'aujourd'hui, voire l'intelligence artificielle, je ne sais pas, on pourrait éviter un nouveau crash boursier de 1929. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce qu'à partir du moment où on résume ça à la question de l'imagination et du cerveau humain, en fait, on aura beau faire tous les progrès technologiques qu'on veut, on n'arrivera pas mieux à prévoir ?
Bah, disons, alors là-dessus, j'aurais tendance à être, alors, à titre personnel, relativement pessimiste pour le dire comme ça, c'est-à-dire que le futur est incertain et a vocation à le demeurer. Donc, à un moment donné, des événements imprévus risquent toujours de surgir sur le chemin et d'obstruer la course, pour le dire comme ça. Et en revanche, effectivement, ce type d'outil peut permettre, malgré tout, d'atténuer les erreurs en fait en régime ordinaire, pour le dire un peu comme ça. C'est-à-dire que les petites erreurs qui sont d'ailleurs des erreurs au sens où qui sont des écarts entre les chiffres prévus et les chiffres réalisés liés, par exemple, à la survenue d'événements comme ça un peu ponctuels. Cela, pour le coup, ont vocation sans doute à être atténués d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, les gros événements sont vraisemblablement ont vocation à rester.
Et Olivier Pilmis, on a beaucoup parlé de la production, finalement, que ce soit en termes d'imagination, de traitement des données. Mais on pourrait se dire qu'une des raisons pour lesquelles on bride son imagination, c'est qu'une prédiction, enfin une prévision, n'a de sens que si elle est crédible, que si elle est bien reçue. En termes de réception, est-ce qu'il y a un travail de persuasion aussi qui doit être mené pour que le travail de prévision ait du sens ?
Ah, tout à fait, mais en fait, à certains égards, c'est ce qu'évoquait votre extrait précédent autour de la question de la prévision centrale, en fait. Si en fait, il y a une prévision qui est quand même la plus probable. Et des risques associés, c'est comme ça que c'était présenté. Et en fait, ça se présente souvent, enfin ça peut se présenter parfois plus exactement, parce que c'est pas si fréquent que ça, sous la forme de ce qui est parfois appelé un espèce de fan chart, c'est-à-dire en fait une courbe avec des dégradés de couleurs selon que c'est plus ou moins proche. C'est bizarre parce que je fais des grands gestes avec mes mains, mais je m'excuse.
Et à la radio, effectivement.
Mais en fait, avec des couleurs très vives au centre, et de plus en plus pâle à mesure qu'on s'éloigne de ce centre-là, qui renvoie en fait à des enjeux de probabilité différents en fait. Et à ce moment-là, ça fait partie de ces éléments pour rendre compte de la crédibilité du travail qui est réalisé. C'était précisément montrer qu'il ne s'agit pas d'une prédiction au sens où il ne s'agit pas de dire le futur qui va devenir, mais de dire
un futur possible
considéré comme le plus probable.
Vous dire en 2040, ils se diront, mais c'était merveilleux, on va reprendre tout ce qu'ils avaient fait, mais nous aurons expérimenté des théories économiques qui ne sont actuellement pas satisfaisantes pour ce que nous avons. Mais nous avons continuation de l'inflation et du chômage pendant les 20 prochaines années. C'est terrible. Il faudra trouver d'autres solutions parce qu'on ne peut pas vivre dans une économie de cet ordre. Quand j'ai fait cette étude et que je suis revenue à une économie tellement traditionnaliste au début du 21e siècle, en l'an 2000, on a cette conjonction Jupiter-Saturne qui va se faire dans le signe du taureau. Alors, besoin de sécurité, de bien-être, le père étant important, on revient à quelque chose, mais d'absolument traditionnaliste. Et c'est tellement curieux. Ça me réjouissait, puis en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, on aura fait toutes ces expériences, apparemment pour rien sur le moment, mais enfin, ça va sécuriser les gens qui auront gardé de l'or, qui auront gardé des valeurs immobilières.
Il faut garder l'or.
Si on a les moyens de le faire, sûrement. Il n'y a que vers 1991, je crois, qu'on risque un peu de taxer terriblement l'or. De 2000 à 2040, on aura encore une économie capitaliste.
C'était Huguette Essig, astrologue de profession, qui était reçue par Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie en septembre 1981. Olivier Pilmis, finalement, ce témoignage, cette expertise, là aussi, d'une certaine manière, est peut-être moins anodine qu'il n'y paraît, parce que ça ressort beaucoup dans vos travaux aussi, finalement, entre le travail d'imagination, le travail de persuasion, la place laissée à l'interprétation, il y a tout un travail de croyance aussi qui se met en place, et je crois même que vous allez jusqu'à parler d'une forme de magie dans la prévision. Pourquoi ce caractère magique.
Ah, en fait, c'est un parallèle que j'ai dressé en fait, à un moment donné entre, d'un côté, la pratique des prévisionnistes et en pratique la pratique de production des prévisions, en faisant un parallèle avec la théorie de la magie chez Henri Huber et Marcel Mauss dans un article fameux de 1902. Et en fait, autour de l'idée que, en fait, dans les deux cas, on a affaire à des discours sur le futur. Et il ne s'agit pas de dire que l'un est plus légitime que l'autre a priori, même si effectivement l'un des deux serait considéré aujourd'hui comme plus crédible de l'autre. Et pour ne rien vous cacher, j'ai souri en écoutant l'extrait le Verseau qui rentre dans Saturne et qui explique la situation en 2040, mais effectivement, enfin, l'idée étant de dire qu'en fait, il y a d'une part, enfin, au tout début, au fondement, pour le dire comme ça, de la prévision économique, il y a quand même la croyance fondamentale qu'en fait, il est possible de dire quelque chose de sensé sur le futur. Il y a quand même ce fond-là qui est là. Et en fait, l'un des éléments qui me semblait tout à fait intéressant dans le parallèle à faire entre le texte d'Henri Huber et Marcel Mauss et les pratiques de prévision contemporaine, c'est qu'en fait, il y a deux éléments qui sont assez similaires. À un moment donné, qui sont qu'est-ce qui se passe quand ça rate, en fait, au fond. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, une personne a tourné en dansant autour d'un feu pour appeler la pluie et il n'a pas plu, en fait. C'est comment justifier la chose pour sachant que ces croyances-là sont toujours menacées en fait, elles sont toujours menacées par l'échec à un moment donné.
C'est la fatalité du futur.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné il pleut pas, vous pouvez vous détourner complètement du prophète prétendu, etc. Justement, le traitant de charlatan et c'est fini, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un élément en fait qui renvoie justement en fait aux pratiques professionnelles. C'est qu'en fait, le texte de Huber et Mauss sur la magie, c'est en fait, en tout cas, c'est la lecture que j'en propose, c'est en fait un texte très précoce sur la professionnalisation et sur les professions. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le prophète peut dire, il n'a pas plu, parce que par exemple, j'ai pas tourné dans le bon sens. J'ai pas tourné à la bonne heure, les gens n'y croyaient pas, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème de, le rituel n'a pas été réalisé de la bonne manière, et donc, ça ne marche pas. Et en fait, de même que, en fait, dans le cas de la prévision économique contemporaine, ce qui fait que la prévision est plus ou moins crédible, c'est-à-dire bien reçue, en particulier par les autres prévisionnistes, c'est le fait qu'elle a été respectée selon les règles. Et en fait, ce qui renvoie aussi aux questions de modèles, y compris de tableur Excel tout bête, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est un enjeu de faire les choses correctement. À un moment donné, l'un des exemples que vous avez présenté parlait de cohérence. Et d'homogénéité peut-être, mais non, en tout cas de cohérence. Et donc, c'est l'idée qu'à un moment donné, le récit que vous allez faire du futur, c'est un récit dont on peut rendre compte rationnellement, pour le dire comme ça.
Olivier Pilmis, je voudrais vous faire entendre un dernier extrait. C'est la voix de Maurice Paria, qui est un poète et qui a décidé de devenir économiste prévisionniste.
J'ai maintenant abandonné la poésie et suis devenu un économiste qui effectue des recherches en matière de prévision économique. D'ailleurs, je viens d'écrire un ouvrage intitulé « Les méthodes de la prévision économique et leurs applications à la prévision boursière » qui est sorti à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Il semble qu'il y a un monde entre la poésie et la prévision économique. En fait, je ne le crois pas. La poésie, c'est une perception hypersensible des choses et des êtres quant à la forme, et quant au fond, c'est une révolte contre l'ordre social, le conformisme et toutes les servitudes qu'entraîne la vie en société. Le poète refuse la condition humaine parce qu'il en perçoit plus intensément l'absurdité. L'économiste a besoin, lui aussi, d'être un hypersensible, car il doit connaître et mesurer les malheurs des humains afin d'essayer d'améliorer ces imperfections de la vie sociale qui faisaient le désespoir du poète. Ainsi, le lien est fait entre la révolte simplement négative et la recherche constructive d'une meilleure vie pour l'homme.
Olivier Pilmis, est-ce qu'il y a effectivement un lien entre le poète et le prévisionniste, selon vous ?
Alors là, effectivement, là, vous me prenez vraiment au débotté. Ben, je ne saurais pas trop vous répondre. En tout cas, il y a quand même la volonté de construire un récit, à un moment donné. Alors justement, du coup, ce qui en va peut-être plutôt au romancier, à certains égards, qu'au poète, à tout prendre.
On parlait de scénario et effectivement, tout est lié. Merci infiniment, merci Olivier Pilmis. Je rappelle que vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Et tout de suite, on retrouve le fil d'Arnaud Aurin où il sera question de rien de moins que la fin de la mondialisation. Et prêtez bien l'oreille, car aujourd'hui est un jour spécial. Il s'agit de la toute dernière chronique d'Arnaud Aurin.
Le fil écho.
La mondialisation et le libre-échange sont morts. Et je ne pense pas qu'ils reviendront de si tôt. Cette déclaration radicale a été prononcée en 2022 par Maurice Cheng, fondateur de TSMC, le géant taïwanais des puces électroniques. Les flux mondiaux de marchandises n'ont pas vraiment baissé au cours des dernières années. Mais comme Maurice Cheng, vous le sentez, il se passe bel et bien quelque chose avec la mondialisation. Quelque chose ? Mais quoi ? Sans doute l'émergence d'une mondialisation d'une nature assez différente de celle que nous avons connue depuis les années 80. Dans sa dimension économique, la mondialisation est un processus d'intensification des échanges sur la planète. Via des réseaux de transport et l'ouverture des économies, des individus, des firmes et des États, jusqu'alors protégés par des règles nationales, sont mis en concurrence dans le monde entier. La mondialisation se mesure généralement par des flux quantitatifs. Si l'on en croit le Fonds monétaire international, le pourcentage du total des exportations et des importations dans le PIB mondial a connu une croissance spectaculaire depuis 50 ans. Cette part était de 20% au début des années 1970. Elle a atteint presque 60% juste avant la crise de 2008. Mais on aurait tort de se focaliser sur ces chiffres quand on cherche à caractériser la mondialisation. Le point crucial se situe probablement ailleurs. Prenons la toute fin du 19e siècle. Les échanges mondiaux connaissaient des à-coups, mais ils continuent de progresser. Pourtant, vers 1900, l'économiste Gustav Schmoller remarque que la période de mondialisation libre-échangiste des années 1850-1880 est terminée. Partout, explique Schmoller, on voit revenir l'impérialisme, et avec lui le commerce exclusif des colonies avec leurs métropoles. Les droits de douane se renforcent, la méfiance est de nouveau de mise dans les échanges. On veut commercer, oui, mais avec ses amis, ses vassaux et ses colonies. Tout pousse au retour des exagérations mercantilistes, écrit Schmoller en ce début de XXe siècle. Le mercantilisme, c'est cette période, du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, qui est aussi une période de mondialisation. Les Européens, assoiffés de conquêtes, ouvrent par la force de nouvelles routes commerciales. Les marchandises et les êtres humains s'échangent à une échelle jamais connue sur la planète. Dans cette mondialisation, on ne commerce cependant pas avec les plus compétitifs, mais le plus possible à l'intérieur de son propre empire. Pour revenir à Maurice Cheng, dire qu'aujourd'hui la mondialisation est terminée n'a donc pas vraiment de sens, car il faut en fait distinguer deux types de mondialisation. Lors des mondialisations libérales, dans les années 1860 ou 1990, les flux de marchandises sont principalement orientés par les mécanismes du marché libre. Lors des mondialisations du XVIIe siècle, de la fin du XIXe siècle et depuis quelques années, ces mêmes flux sont plutôt organisés par des considérations stratégiques et politiques. Les entreprises ne peuvent pas commercer avec qui bon leur semble. Elles n'ont pas librement accès aux matières premières. Et leurs chaînes de valeur doivent se localiser de plus en plus chez des amis, des vassaux, et peut-être demain, de nouvelles colonies. En somme, la mondialisation, ce n'est pas toujours du libéralisme économique, contrairement à ce que l'on a trop souvent cru jusqu'ici.
Merci beaucoup Arnaud, ce fut un plaisir de vous accueillir dans Entendez-vous l'écho. Vous nous avez fait voyager dans le temps à bien des reprises. Toutes vos chroniques sont à retrouver sur le podcast Le Fil de l'écho et sur la page qui porte le même nom. Et donc dès la semaine prochaine, c'est l'économiste Alexandra Roulet qui prendra le relais et qui sera elle aussi à 14h55 à la toute fin de l'émission et qui aura aussi droit à son podcast sur la page du Fil de l'écho et sur l'application Radio France. En attendant sa venue, pour réécouter cette émission, toutes les précédentes, pour avoir tous les liens vers toutes les références bibliographiques qu'on a évoquées aujourd'hui, elles furent nombreuses avec Olivier Pilmis, vous pouvez vous rendre sur la page d'Entendez-vous l'écho sur France Culture. Entendez-vous l'écho, c'est aussi un podcast sur l'application Radio France auquel vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse Entendez-vous l'écho, tout attaché, @radiofrance.com.